Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bonsoir, je ne sais pas encore. Bon, ouais, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être ici pour écouter une, un débat. Un entretien sur les éditions Actu SF avec Jérôme Vincent, qui est donc le responsable directeur des éditions Actu SF. Et ça peut être très intéressant, effectivement, de voir comment fonctionne une maison d'édition spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Et je pense qu'on va poser des tas de questions à Jérôme et j'espère qu'il va nous y répondre.
Bien, c'est mieux.
Alors, bienvenue Jérôme. Alors, commençons peut-être par le début. Pourquoi avoir créé une maison d'édition, pouvoir créer Actu SF, au fait, alors qu'il en existe déjà ?
Alors, il n'y a pas de pourquoi, à la vérité. Je dis souvent que tout est né autour d'une pizza, quand nous avions une petite vingtaine d'années. On était en banlieue parisienne. Et on était tous lecteurs de science-fiction avec mes camarades qui étaient au lycée avec moi. Et on a donc fondé on avait l'impression que personne ne parlait de science-fiction dans notre banlieue parisienne. Et du coup, on a fondé un fanzine. Donc, il n'y avait pas de pourquoi, il y avait vraiment de l'envie de parler d'imaginaire. Et puis, il se trouve qu'en faisant le fanzine, on a commencé à faire des concours de nouvelles réservés aux auteurs amateurs. Et que la meilleure manière de les récompenser, c'était de faire des livres avec les nouvelles qui gagnaient. Et puis de fur et à mesure, globalement, ces concours de nouvelles, on a commencé à prendre des contacts. Roland Wagner nous a filé un premier texte à publier. Ici même, aux Imaginales, j'ai négocié avec Philippe Caza. Et puis on a fait un livre, deux livres, trois livres, de manière complètement informelle, sans aucune conscience véritablement, sans projet éditorial précis. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, il y a plein de maisons d'édition, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut apporter nous. On a juste eu le plaisir de faire des livres de manière complètement amateur, de continuer, de finir par grossir et ensuite de prendre un rythme et de se professionnaliser. Mais il faut comprendre que nous, on commence vraiment de manière sans aucune conscience de ce qu'on est en train de faire.
Alors ça, c'est assez exceptionnel parce que généralement, les fanzines finissent par vivre une vie qui est parfois assez courte et par disparaître. Et là, ça continue. Alors, est-ce que ça tient aux personnes ? Est-ce que ça tient à la qualité des textes ? Est-ce que ça tient à la passion ?
Alors, le fanzine est devenu un site internet qui s'appelle actusf.com, site d'actu sur les littératures de l'imaginaire. La maison d'édition s'est créée comme une deuxième activité, donc les choses sont relativement séparées, même si ce sont les mêmes personnes qui travaillent. Et puis, il y a un petit noyau dur qui, depuis 20 ans, travaille autour de cette maison d'édition et de site internet, qui se renouvelle, qui perdure. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Et c'est pour ça que le projet est toujours là.
Est-ce que c'est une structure professionnelle, semi-professionnelle, amateur ?
Aujourd'hui, c'est une SARL, comme tout le monde, qui fait vivre 3 salariés à plein temps, plus ce qu'on appelle la famille élargie. Hein. On travaille avec une 4e personne quasiment tous les jours, puis des prestataires de services. Sachant qu'encore une fois, vraiment, nos deux activités principales, c'est vraiment de faire de l'actu sur les littératures de l'imaginaire et sur le polar désormais, et aussi éditer des livres. Ça nous permet de, à la fois, faire une espèce d'étude de marché permanente de tout ce qui se fait et d'être le relais, et en même temps de travailler sur de la publication.
Alors, quelles sont la ligne ou les lignes éditoriales, comme tu parles du polar maintenant, donc j'imagine qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a des directeurs de collection ? Comment ça fonctionne ?
Donc, ActuSF, on travaille essentiellement en science-fiction, fantasy, fantastique, dans la littérature de l'imaginaire, plutôt pour adultes. Et puis, il se trouve que nous avons créé au sein d'ActuSF une collection de fantasy dirigée par Audrey Alouette, qui est une éditrice extérieure, vraiment notre directrice, et la collection Bad Wolf. Elle travaille essentiellement sur de la fantasy plutôt rigolote, avec un certain nombre de messages, et plutôt à visée féministe et humaniste. Et puis dans l'autre, c'est une deuxième ligne, nous avons aussi toute une collection d'essais ou de guides. Hein, donc là, vous avez par exemple la monographie autour de Lovecraft. En fait, notre idée, c'est qu'on peut travailler sur les littératures de l'imaginaire, en proposant des textes soit pas chers avec des guides qui sont à 10 euros sur différentes thématiques, soit vraiment des études un peu plus fouillées comme sur Lovecraft sous la forme de monographie, ça c'est la troisième couche. Et puis on rajoute deux autres couches. À la fois, on a rencontré les Indés de l'imaginaire. Donc on a fondé les Indés de l'imaginaire avec Mnemos et les moutons, ce qui nous a permis de créer deux collections en commun qu'on n'avait pas avant. Une collection de poches qui s'appelle Helios, comme Pocket, comme le reste, donc qui fait du poche. Et puis une collection jeunesse qui s'appelle Naos, et dans laquelle on s'investit de plus en plus avec un tournant plutôt young adulte que jeunesse au fur et à mesure. Ça, c'est les 4e et 5e lignes. Et puis, il y a une ligne qui est plus au coup par coup, au fur et à mesure des rencontres, qui est une ligne plutôt sur la jeunesse pour des bouquins de 10 à 12 ans à peu près, hein. Soit liés à un lieu comme Château de Guédelon, soit liés à la Première Guerre mondiale. Puisqu'ici, on a rencontré des gens qui emmènent des enfants sur les champs de bataille à côté de Verdun. Et donc, du coup, on a décidé de faire un livre ensemble, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a, si je compte bien, 7 lignes, mais qui finalement n'en sont qu'une seule, puisqu'en fait on travaille toutes les lignes en même temps et simplement les projets, eh ben, on répartit, on se dit bah, tiens, ça irait plus en AOS, ça irait plus en adulte avec des guillemets, ça c'est trop court, on va peut-être leur publier tout de suite en poche, ou ça au contraire on va en faire une série, quoi.
J'allais me demander comment s'opère la sélection des textes. Est-ce que vous faites des appels à textes? Est-ce qu'ils viennent spontanément?
Alors, ils viennent beaucoup spontanément. Donc, du coup, alors il y a deux choses. Il faut comprendre qu'il y a trois types de projets. Il y a quatre types de projets. Il y a les auteurs anglo-saxons, où là, on va chercher des textes, acheter des droits à traduire. C'est le cas de George Martin, c'est le cas de Neddy Okorafor, même si c'est une reprise. C'est le cas de Nancy Kress ou de Robin Hobb. Il y a une deuxième manière, ce sont tous les auteurs français ou francophones avec qui on travaille déjà. C'est-à-dire qu'a priori, comme on a fait 5 livres avec Sylvie Lainé, le 6e sera peut-être plutôt chez nous. En tout cas, on est en discussion pour. Il y a les gens avec qui aimeraient travailler avec nous ou avec qui on aimerait travailler, qui nous envoient aussi des projets. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les soumissions ou les manuscrits qui arrivent de manière spontanée, donc non réclamée. Et ça, en ce moment, on en reçoit entre 3 et 5 par jour. Et c'est un vrai souci de gestion, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'il faut lire à minima, répondre, refuser, accepter. Donc il arrive qu'on trouve des perles, hein, dedans. C'est le cas par exemple de Damien Snyers ou de Claire Crust ou d'une jeune fille qui s'appelle Katia Romero, qu'on va publier bientôt. Mais effectivement, là, on a un réservoir potentiel de, je sais pas, un millier de manuscrits par an dans lequel il faut chercher, fouiner, trier. Et ça, c'est une vraie difficulté.
Et c'est énorme. Comment vous arrivez à lire tout ça ou à trier tout ça?
On n'y arrive pas. Et à la vérité, on travaille en premier lieu sur Synopsis. C'est-à-dire que si c'est un roman qui met en scène un petit garçon qui va dans une école de magie, qui a une cicatrice et qui est orphelin, on se dit qu'a priori, ça a peut-être déjà été fait. Ou une sombre histoire d'anneau avec des nains et des elfes, on passe souvent notre tour. Même si c'est compliqué. Et puis après, on fait comme tout le monde, hein. On lit en général les premières pages et puis on voit si on accroche ou si au contraire, c'est pas pour nous et du coup, on se désengage du projet, quoi.
Oui, parce que dans les manuscrits, effectivement, on voit tout de suite ceux qui sont bons, tout de suite ceux qui sont mauvais. Et puis, la plus grande partie, des fois, c'est difficile de trier. Est-ce qu'il y a plusieurs lectures dans ces cas-là?
C'est compliqué. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que souvent, on fait des doubles lectures. C'est-à-dire que Jean-Laurent Del Socorro travaille avec nous, Marie Marquez travaille avec nous, donc on est 3 salariés, avec Eric Holstein en 4 et puis Audrey Alouette qui propose des projets. On accepte les romans à partir du moment où au moins 2 personnes sont d'accord dans le groupe, que ce soit pour l'anglais ou pour le français. Donc on partage en permanence les lectures, sachant qu'évidemment les lectures elles sont jamais en journée, hein, ni de travail éditorial. Donc on lit le soir, le week-end, et puis on échange le midi autour des pizzas ou du repas du midi, quoi.
Toujours en présentiel ou bien par mail aussi? Par courriel
Internet. Par courriel. Nous, on est une maison d'édition qui sommes basés à Chambéry, dans les montagnes. Donc, du coup, on a des collaborateurs à Paris, à Lyon, dans le Beaujolais, à Bordeaux. Donc, on travaille énormément par mail, énormément par Skype. On est pendu une bonne partie de la journée au téléphone. Et puis on se déplace beaucoup aussi, donc c'est en fonction des opportunités. On fait des grandes réunions édito pour choisir les axes, les manuscrits, des choses comme ça. Mais on se lève édition, on travaille édition, on bouffe édition. Donc en permanence, en fait, on parle de nos lectures, de nos manuscrits, de ce qu'il faudrait faire, de ce qui serait bien, de ce qui serait chouette. Voilà, c'est avec Jean-Laurent. Alors Marie travaille à domicile. en Autriche, mais avec Jean Laurent et Marie régulièrement par Skype. Je crois qu'il n'y a pas une journée où on ne parle pas de nos lectures, quoi.
Je me trompe ou bien on peut parler de passion?
Ah oui, moi je suis tout à fait dans le cas de l'ado qui est tombé dans la science-fiction quand il était ado. Il y avait très clairement, il y avait le père Goriot et il y avait Tolkien et Moorcock, quoi. Et très clairement, moi j'ai choisi mon camp. Et tout ce que j'ai fait, c'était vraiment par passion. D'ailleurs, ActuSF, pendant 10 ans, n'était pas une structure professionnelle. Donc j'avais un autre métier à côté. Et puis la passion a grandi. On a réussi à faire grossir un peu la grenouille jusqu'au moment où on s'est dit ok, désormais, on professionnalise et on met des emplois. Sinon, pendant 10 ans, ça a été qu'une entreprise de loisirs. Donc finalement, il y a des salaires que depuis 6 ou 7 ans. Donc on est à la fois vieux et jeune. C'est un peu particulier. Mais on est des sortes de petits vieux un peu verts encore. Donc on a encore pas mal de choses à faire, quoi.
Combien de textes ActuSF publie par année? Alors j'imagine que c'était progressivement, mais aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est à 25. Donc il y a une dizaine de grands formats, une dizaine de livres de poche, plus tout un tas, plus la collection Naos, donc en young adulte et en jeunesse, plus tout un tas de projets, style le dernier Bleuet, qui vient de se rajouter au nombre de parutions. Donc voilà. Il faut comprendre que les éditions Mnemos comme La Talente ou Les Moutons, qui jouent dans notre catégorie mais un peu plus haut, ils sont plutôt autour de 40. Donc nous, on trouve déjà que c'est beaucoup, mais en fait, les autres, ils font mieux.
Comment fonctionne la chaîne d'édition là? Vous recevez un manuscrit, donc vous le sélectionnez, vous décidez, il y a deux lecteurs qui décident que ça vaut la peine. Comment faites-vous après? Est-ce que vous les relisez? Il y a de la correction? Ils sont imprimés à quel endroit? Enfin voilà.
Alors donc nous c'est très collectif. Les décisions elles se prennent en général de manière très collective. Même si en tant que chef j'ai une voix, je peux décider de choses. Mais en vrai, on discute en permanence et beaucoup. À partir du moment où on accepte un manuscrit, il faut choisir un éditeur. Donc souvent, il y a quelqu'un qui porte un petit peu un texte. C'est lui qui va faire le travail éditorial avec l'auteur. J'assurerai avec Estelle Hamelin l'administratif. Marie Marquez, si ce n'est pas l'éditrice, s'assurera de tout ce qui est correction orthotypo, maquettage et puis relation avec l'imprimeur. De son côté, Eric Holstein, qui est notre directeur artistique, aura lui la tâche de concevoir la couverture avec un artiste et évidemment être d'accord avec l'auteur sur la couverture. Et ce n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, il y a un vrai travail. Sachant que de l'autre côté, je m'occupe moi de toutes les relations avec notre diffuseur-distributeur pour la commercialisation des textes en librairie. On termine une fois que le livre est fait. Il faut évidemment faire de la communication, donc de la relation journaliste, donc c'est plutôt moi, puis de la vente et de la promotion sur les salons, donc ça c'est plutôt Jean-Laurent et moi sur l'organisation, les invitations auteurs, puis les tournées auteurs, ça c'est plutôt Jean-Laurent qui gère la logistique. Et puis après il faut gérer la logistique. Donc il y a beaucoup de petites tâches, mais sachant que tout le monde peut chez nous devenir éditeur d'un texte parce qu'il le porte. Ou s'assurer de manière, enfin de travailler les textes de manière un peu plus fort quand ils le souhaitent.
Participer à beaucoup de salons par année?
On en fait une bonne quinzaine.
Bonne quinzaine, ouais. ça fait beaucoup de travail.
Ça fait beaucoup de routes. Ça fait 35 000 km par an à peu près, donc de manière simple. En fait, il faut comprendre que la situation en librairie, si nous ne faisions que la librairie, on arriverait à générer un poste, à peu près, financièrement parlant. Donc il y a un deuxième bout de salaire qu'on va chercher sur les salons. Et les salons, ils nous servent à deux choses. D'abord, faire des ventes directes qui nous rapportent des sous, de manière très pragmatique. Deuxièmement, on a ActuSF, qui est un site d'actualité. Donc par exemple, on enregistre toutes les conférences sur les utopiales depuis plus de 10 ans. Donc on a 2400 conférences en ligne. Donc on récupère du contenu pour le site. Et puis, troisièmement, ça permet aussi aux auteurs de pouvoir être présents, d'être là sur les tables rondes. Donc, c'est de la visibilité et de la promotion. Donc, du coup, les salons, ils sont très importants, ce sont des temps forts. Et puis, il y a une quatrième ligne, il y a plein de rencontres interprofessionnelles dans les salons. On ne le voit pas beaucoup, mais on discute aussi beaucoup avec les auteurs. C'est l'occasion d'échanger. Il y a des gens qui nous apportent des projets. Il y a des moments où on parle de manuscrits qui sont en cours, par exemple. Ce matin, j'ai pris un café avec Jean-Luc Bizien, Sur le manuscrit que je suis en train de corriger. Donc, on a discuté de savoir où j'en étais, comment ça se passait, etc. Donc, le salon, c'est toujours un temps fort. Il y en a 15 dans l'année. Alors, plus ou moins important. Les imaginales, c'est un des vraiment des temps forts. On a des plus petits salons où c'est plus cool. Mais en tout cas, c'est ultra nécessaire à notre économie, quoi.
Est-ce qu'il y a une spécificité d'ActuSF par rapport à d'autres éditeurs ? Je sais, moi, il me semble que la présence sur Internet est particulièrement importante. Est-ce que c'est ça qui vous différencie ?
Alors, j'aurais pas la prétention en termes d'édito de dire nous apportons quelque chose de différent. D'accord ? On fonctionne essentiellement au coup de cœur et on essaye d'avoir les manuscrits qui nous plaisent le plus possible pour les défendre le mieux possible. Donc, on n'est pas meilleur que la Talente ou le Diable Vauvert. On essaie juste de faire les meilleurs bouquins qui soient dans nos genres. Après, sur Internet, évidemment, on a une section VPC. Évidemment, les réseaux sociaux sont hyper importants. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Mais on fait évidemment beaucoup mieux que les autres. Mais les autres, ils sont aussi très présents. Donc, il n'y a pas de spécificité là-dessus, quoi.
Moi, je trouve que vos livres sont très jolis. Comment faites-vous pour les illustrations ? Vous contactez des illustrateurs ? Vous avez une équipe d'illustrateurs dans la maison ?
Alors, les deux, mon capitaine, on travaille beaucoup avec Eric Holstein. Alors, Eric, c'est quelqu'un qui a un sens artistique, il fait beaucoup de radio. Hein, à la base, il est producteur radio, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Lui, il s'attache à trouver des artistes qui ne soient pas les artistes classiques dont on a l'habitude dans les genres de l'imaginaire. Donc, de faire un espèce de pas de côté tout en étant dans nos genres. Donc, par exemple, sur Lovecraft, c'est un artiste japonais. A fait la couverture. Pour Karim Berouka, par exemple, on utilise alors un illustrateur un peu maison qui s'appelle Diego Tripodi, qui vit en Argentine. Donc Eric, il travaille essentiellement par Internet, et puis il va chercher l'artiste qui pense le mieux correspondre, tout en, encore une fois, se détachant de l'imagerie classique de la fantasy, comme vous pouvez la connaître. Je dis pas que c'est mal, hein, mais nous, on a toujours essayé de faire un petit pas de côté, par exemple, en termes de couverture. On a toute une série de guides, par exemple. Bon, bah, c'est des guides qui sont faits tout en typo, c'est-à-dire que les titres de Lovecraft constituent la tête de Lovecraft pour le guide Lovecraft. Bah, ça, c'est fait avec un artiste spinalien qui s'appelle Alexandre Bourgois, qui passe tous les ans aux Imaginales, et donc qu'on réutilise au fur et à mesure. Donc à la fois, Eric, c'est génial parce qu'il va nous chercher des gens qu'on ne connaît pas ou des gens qui ont une patte très particulière. Et administrativement, c'est un enfer parce que parfois, il faut que j'envoie des paiements en Afghanistan et que c'est loin d'être simple, quoi.
J'imagine. Pardon. Le mode de diffusion. Vous avez un diffuseur en France, mais aussi à l'étranger. Vous avez d'autres diffuseurs ?
Ouais. On est sur la France, la Suisse, le Québec et la Belgique. On travaille avec Harmonia Mundi, qui diffuse également les moutons électriques Mnemos et les éditions critiques, qui ont travaillé longtemps avec Bragelonne et pendant plus de 20 ans avec La Talente. Donc, qui est un petit gros chez les diffuseurs, c'est-à-dire que c'est un diffuseur professionnel qui alimente à peu près 1200 points de vente pour l'imaginaire, mais qui est le plus petit des diffuseurs un petit peu sérieux sur la place, quoi. Et c'est un travail qui est très intéressant parce que du coup, le livre, évidemment, sur les textes, il y a beaucoup de passion, mais d'un seul coup, il faut le vendre, il faut le pitcher à des gens qui vont le représenter chez vos libraires. Donc, il faut leur donner des arguments commerciaux et marketing forts. Donc, on change un petit peu de vision. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est passionnant. Et on a une relation prestataire de service et client, mais qui n'est pas vraiment une relation prestataire de service et client. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup, ils nous conseillent, on leur demande des choses. De temps en temps, on râle, ça nous arrive. De temps en temps, ils râlent parce qu'une couverture n'est pas à l'heure, par exemple. Donc voilà, si je n'ai pas, j'ai pas 30 mails par semaine avec mon diffuseur-distributeur, c'est une mauvaise semaine, quoi. Donc voilà, il y a une relation très étroite qui est commerciale, mais qui en même temps est un peu fusionnelle sur la manière de fonctionner, quoi.
Donc il y a la passion d'un côté, le choix des textes et tout ça, et de l'autre côté il y a le commercial, c'est-à-dire l'administratif, les règlements, les paiements, tout ça, s'occuper. Est-ce qu'il y a aussi la passion de ce côté-là, ou c'est une charge, c'est lourd, c'est pénible, qu'est-ce que...
Alors je défie est-ce que quelqu'un peut un jour venir me voir en disant « moi l'administratif c'est ma passion ». J'adore faire des déclarations à GSA, j'adore faire des contrats, me faire chier avec les petites lignes, peut-être, Oui. Ça existe. Mais il faut vite, vite venir me voir. Non, non, évidemment, c'est un peu chiant l'administratif, mais en vrai, c'est un mal nécessaire, il faut le faire. En vrai, c'est pas si désagréable, c'est juste long. Donc c'est ça qui est un peu pénible. Évidemment, je préfère largement travailler sur un texte ou être derrière un stand, très clairement. Après, faire de la compta, par exemple, pour moi, c'est pas grave, quoi. C'est un passage obligé. Vous savez, vous allez avoir votre après-midi par les chiffres. Il peut même y avoir une sorte de plaisir, peut-être un peu masochiste, à gérer des tableaux, des lignes, à faire des croisements, à travailler là-dessus. Et puis, alors, il y a un truc qui est très personnel, mais une fois que vous avez tout réglé administrativement pour un livre, il y a une sorte de libération interne là, qui sent, genre, OK, ça c'est fait. C'est un peu comme quand on finit sa déclaration d'impôt, quoi. Enfin, OK, ça c'est fait, je peux passer à autre chose, je peux libérer ma tête de ça, c'est parfait, quoi.
J'ai un peu mal formulé ma question. L'idée, c'était de voir, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Enfin, je voulais dire, il faut être bien organisé, avoir des outils pour bien gérer tout ça.
Bah, ce qui est à la fois la force et notre faiblesse, c'est pour moi, on est toujours une entreprise en construction. Donc, par exemple, jusqu'à janvier, je faisais tout seul l'administratif. Donc, je m'occupais de tout, plus de l'administratif. Depuis janvier, j'ai Estelle Hamelin qui me file un coup de main, quelques heures par jour sur l'administratif, c'est déjà beaucoup plus vivable. Mais il faut en fait sans arrêt essayer de trouver des solutions pour continuer à pouvoir grandir et tenir l'espèce d'équilibre un peu improbable. Puisque chez ActuSF, il y a du journalisme, des livres, il y a du marketing aussi. Enfin voilà, une espèce de bordel global qu'il faut réussir à maintenir dans la marmite, quoi.
Alors, il y a des titres qui marchent certainement bien, puis d'autres moins bien. Est-ce que, enfin, je ne sais pas si tu as ça en tête, mais est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les titres qui ont le mieux marché, par exemple?
J'ai cru que tu allais me dire ceux sur lesquels on s'était planté. non, non, oui, il y a des titres qui marchent très bien. Alors, je suis très fier, par exemple, Nancy Kress, pour lui, Ne rêve l'autre pas, qui était un texte absolument génial, mais perdu dans une vieille anthologie des années 80, Asimov présente. Je crois qu'on est à plus de 5000 quasiment exemplaires, donc je suis assez ravi. Nnedi Okorafor, par exemple, c'est un livre qu'on a repris chez Panini, ils en avaient vendu moins de 400. Je pense qu'on est à plus de 3000 aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Voilà, Jean-Laurent Del Socorro est quelqu'un qui fonctionne très bien chez nous. Alors, en plus, il est coup de cœur aux Imaginales, donc on est ravis, quoi. Mais voilà, un bon succès chez nous, c'est entre 3 et 5 000, donc c'est plutôt, ça commence à être un petit peu intéressant, quoi.
Ouais, c'est pas mal, ça. C'est...
Après, on a des livres où on s'est planté aussi, hein, mais je ne parlerai que sous la torture.
Ouais, on est quand même loin des chiffres qu'il y avait autrefois. Alors là, je reviens très loin en arrière, dans les années 70, là où il tirait à 10 000, je crois. C'était
plus, hein. La revue Univers, par exemple, au milieu des années 90, elle s'arrête parce qu'elle est passée sous les 30 000 exemplaires.
Aïe, aïe, aïe.
Le premier livre de... Enfin, c'est pas le premier livre, mais le livre de Joël Vintrobert sur les Jeux Olympiques, vous avez les Olympiades truquées, c'est 80 000 exemplaires. D'accord. Philippe Curval, il a fait aussi plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires sur ses titres. Aujourd'hui... quand vous discutez avec la Talente, ils estiment qu'il y a 15 ans, un roman anglo-saxon, c'était 5000 exemplaires minimum. Pareil chez Mnemos. Aujourd'hui, à 1500, on commence à respirer et se dire que c'est cool, quoi. Donc, évidemment, on a un marché qui a complètement chuté. Alors, nous, c'est un paradoxe. On a commencé avec des livres il y a 10 ans qu'on tire à 200 exemplaires. Donc, on est toujours un peu content d'atteindre les 1500. Mais il faut comprendre que sur les chiffres, il y a un marché qui a dévissé. Complètement, ce qui pose plein de problématiques sur les auteurs, sur les un peu moins sur les traducteurs, mais quand même, sur les éditeurs, sur les libraires, sur le marché en général, quoi.
Moi, j'ai pas l'impression que les gens lisent moins. Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être une offre trop pléthorique?
Je sais pas. En fait, tu as deux phénomènes. Donc, il faut savoir que selon le ministère de la Culture, il y a 90% des Français qui ont lu au moins un livre dans l'année 2016, d'accord, et ils sont plus de 50% à en avoir acheté. Donc on est quand même encore dans un pays qui lit beaucoup. Le problème, c'est que la production a quasiment doublé en 15 ans. Ça, c'est le premier point. Donc la cause de tous les maux, c'est sans doute la surproduction. Deuxième cause, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie concurrence des loisirs. Je rentre chez moi, j'ai le choix entre un jeu vidéo, une série... éventuellement parler avec les gens qui sont autour de ma maison ou faire un jeu de rôle, enfin un jeu de plateau tout du moins, et sans doute que le livre est l'activité peut-être la moins ludique. par rapport à une série télé ou à un jeu vidéo.
Le livre demande un effort.
Hein?
Le livre demande un effort.
En tout cas, c'est celui qui provoque peut-être le moins de plaisir immédiat parce qu'il faut prendre un petit peu de temps de se plonger dedans et de ne pas être interrompu, quoi. Donc voilà, donc instinctivement, surproduction et concurrence des loisirs sont sans doute défavorables au tirage moyen des éditeurs et aux ventes des auteurs. Plus un réseau de libraires qui est un peu qui a aussi ses difficultés en propre. Donc on a des problèmes de canaux de distribution, avec souvent des canaux qui sont bouchés. C'est-à-dire qu'on a parfois des problématiques en librairie alors qu'un livre marche très bien en salon, quoi. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'en librairie on n'arrive pas à le vendre. Donc s'il marche en salon, c'est que la couverture ça roule, c'est que le pitch ça roule, donc il y a bien un problème de l'autre côté.
En fait, éditer un livre, c'est pas tellement difficile, ça demande du temps, mais voilà. Mais c'est la diffusion qui est le vrai problème.
En fait, moi j'ai toujours dit que faire un livre c'est facile et les emmerdes commencent quand les cartons arrivent dans la cuisine, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe qui aujourd'hui, il y a plein d'auteurs auto-édités qui font leurs livres, hein. Les logiciels de PAO se sont démocratisés, c'est plutôt cool. Si vous pouvez même faire des couvertures assez correctes tout seul dans votre salon, donc ça c'est plutôt cool. En revanche, une fois que les livres sont dans la maison, il faut bien les vendre, quoi. Donc le plus difficile, c'est pas de faire un livre, c'est de le commercialiser, de lui donner de la visibilité, de lui donner une vie, quoi, de toucher des lecteurs.
D'où l'importance de participer à des salons, et, par exemple.
Bah bien sûr.
Ouf.
Et puis les salons, en plus, éditeur, on a un peu tendance de temps en temps à être dans notre tour d'ivoire. C'est-à-dire que c'est pas nous qui contactons en direct les libraires. Il y a des gens qui sont chargés de la commercialisation, donc on n'est pas sur le terrain. Donc vous pouvez tout à fait être éditeur et jamais voir la tronche d'un lecteur, quoi. D'accord? Alors que quand vous êtes en salon, vous vous confrontez à des gens. Et donc vous vous rendez bien compte si la manière dont vous présentez votre livre, elle intéresse ou elle n'intéresse pas. Et puis vous vous rendez bien compte des retours des lecteurs qui reviennent d'une année sur l'autre pour vous dire bah ça j'ai adoré et puis ça j'ai pas adoré, quoi. Donc pour moi c'est sortir entre guillemets de sa zone de confort, mais c'est aller voir les gens, enfin véritablement. Ce sont les lecteurs, c'est vous qui nous lisez, quoi. Et si on n'a pas de retour sur les livres, c'est qu'on s'est un peu planté quelque part. Oui. Aujourd'hui, on sort Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, c'est-à-dire que Royaume de vent et de colère, ça fait 3 ans qu'il est aux Imaginales. Il y a des gens qui arrivent en disant, ah, j'ai adoré Royaume de vent et de colère, je vais prendre Boudica. Bon, bah, on a gagné notre pari. Et puis en même temps, il y a d'autres gens qu'il faut convaincre, voilà, en disant, pourquoi est-ce que vous allez acheter des livres chez moi plutôt qu'ailleurs, quoi. Alors qu'ils ont des auteurs plus beaux, plus sexy, plus sympas, avec des couvertures encore plus jolies que moi, quoi. Donc, comment on fait?
Quels sont les axes de développement que vous envisagez, qu'ActuSF envisage par la suite pour la fin de l'année, pour l'année prochaine?
Alors,
Est-ce qu'il y a déjà des titres qu'on peut annoncer ou pas? Enfin,
ouais, ben, alors, ce qui nous excite beaucoup, c'est qu'il y a un roman de Georges Martin qui s'appelle Night Flyer et qui va être adapté, qui arrive sur Netflix à l'automne. Et ça tombe bien parce que Night Flyer, c'est chez nous. Donc on est très excités parce que c'est une série télé et que du coup on se demande bien quelle retombée ça va être, sachant que Le Trône de Fer, ça se compte en centaines de milliers d'exemplaires, voire en millions, et que si on fait des millions, bah, je pars avec la caisse et ce sera plus simple. Non mais voilà, il nous faudrait pas grand-chose pour qu'on vive de manière bien plus confortable. Hein, moi, un petit succès à 10 ou 20 000, je prends. Donc ça, c'est notre premier gros coup, ça arrive à l'automne. Sachant qu'on a Qui a peur de la mort de Neddy Okorafor qui devrait être adapté par HBO et qu'on a aussi Skin Trade de George Martin qui devrait être adapté par HBO et qu'on va sortir en octobre un autre grand roman de B.H. Winters qui avait fait plutôt du polar et qui s'appelle Underground Airlines et qui a, je vous le pitch rapidement, en gros c'est une uchronie. Abraham Lincoln a été assassiné, il reste 4 États esclavagistes aux États-Unis de nos jours, et on suit un personnage personnage noir qui est obligé de revenir dans ses états esclavagistes pour servir d'espion. Donc c'est un roman qui parle du racisme aux États-Unis aujourd'hui, qui parle évidemment de ségrégation et tous ces romans-là, et que lui, il y a un projet de pilote qui traîne aussi. Donc premier axe de développement, la gloire, le champagne et la drogue grâce aux séries télé. Ouais. Deuxième axe de développement, on va investir un peu plus dans Naos, qui est notre collection jeunesse. Et je suis très très content d'avoir et Jean-Luc Bizien et Nadia Coste, qui qui vont arriver en août et en septembre. Et puis Katia Zamero, qui avec La Vouivre fait un roman extraordinaire. Donc on va s'investir un peu plus en jeunesse. On va s'investir un peu plus dans la collection Helios, qui est notre collection de poches. Et on se rend compte qu'en fait, elle marche. Elle marche même plutôt pas mal. Donc on va investir un petit peu dedans, quoi.
Oui, ouais.
Voilà. Et puis après, j'ai plein d'autres projets secrets où je parlerai que sous la torture. Vous serez bien obligé d'attendre. Mais voilà, il y a des vrais temps forts qui arrivent à l'automne. Et puis on reprend aussi Les Hommes dénaturés de Nancy Kress. Génial, le futur est plein de pollution. 90% des gens sont stériles. Et donc, du coup, ils sont en manque d'enfants. Et il y a des gens qui font un marché noir en leur vendant des animaux, voire des singes à tête humaine, à tête de bébé. C'est glauque, ça parle de plein de problèmes, c'est absolument génial, il faudra lire ça. Voilà, pour ceux qui aiment Nancy Kress, hein, mais c'est vraiment un auteur, c'est vraiment une autrice passionnante.
J'aurais une question sur le côté polar, là, c'est assez nouveau le polar chez ActuSF.
Ouais,
c'est quoi l'idée ?
On n'en fait pas beaucoup. On a fait une collection de poches qui s'appelait Helios Noir, qui pour plein de raisons s'est un peu vautré. Donc moi j'ai plein d'envies polars, mais j'attends de trouver un directeur ou une directrice de collection qui me proposera un projet vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plein d'incohérences. Donc quand on va par exemple à Quai du Polar, je connais plein de gens. Donc voilà, j'ai bien envie de m'y frotter, moi j'aime ça. Il n'y a pas un gros souci. En revanche, je n'ai pas le temps de trouver des manuscrits sur ce truc-là, sur ce domaine-là, quoi. Donc il faut vraiment qu'on travaille avec quelqu'un d'extérieur. Mais si un jour on peut faire notre petite collection polar, je serais ravi, hein. En gros, mon idée sur l'édition, c'est qu'on fasse les meilleurs bouquins possibles en imaginaire, mais qu'on aille voir du côté de la jeunesse, peut-être du côté du polar, et même du côté de la romance, si on peut faire des choses.
Donc en fait, c'est croître, ActuSF croît sans cesse depuis le début.
C'est devenir maître du monde à un horizon de 250-300 ans, quoi. Voilà, de manière assez simple. Non, mais en fait, c'est des logiques de plaisir et des logiques d'entreprise. En gros, nous sommes encore une petite entreprise. On grandit, on passe des étapes au fur et à mesure. Et donc, l'idée, c'est d'aller le plus loin qu'on puisse aller. En imaginaire, on a une production d'une dizaine d'inédits par an. Je trouve que c'est déjà pas mal. Puisqu'on parle de surproduction, je vois pas l'intérêt de multiplier les romans de science-fiction et fantasy parce qu'on aura du mal à les porter. Donc aventurons-nous un petit peu en jeunesse, un petit peu en romance, voire en polar demain. Développons par exemple le système du poche. On développe aussi beaucoup le numérique. Voilà, ça fait déjà pas mal de pistes à explorer, quoi. Et puis on aime l'imaginaire, ça c'est sûr. J'adore ça, j'en bouffe tout le temps. Mais j'aime aussi les autres types de littérature. Donc à partir du moment où j'ai un outil commercial, si demain quelqu'un me propose une collection sur des joueurs de foot, par exemple, je peux aller faire une collection sur les joueurs de foot, quoi.
Est-ce que dans le public, il y aurait des gens qui auraient des questions ou des manuscrits à soumettre? est-ce qu'il y a un micro quelque part qui se balade? Oui? Oui? Non, il n'y a pas. Alors, si quelqu'un a une question, il faudrait parler fort, lever la main et parler fort. Quelle question aimeriez-vous poser à Jérôme Vincent?
Ah merde.
Non, moi c'est ma question, c'est très personnel sur le partage vous êtes aussi, je pense, à la tête du comité de cette structure. Alors, vos collègues, c'est on gère comment quand on porte. Bon, il y a le côté passion et puis il y a le côté pour manger, quoi. Mais
ActuSF est mon activité principale. De temps en temps, il peut m'arriver de faire d'autres choses très intéressantes, genre donner des cours, par exemple. Ça, c'est sûr. Alors, sur le côté vie pro, vie perso, en fait, c'est un peu compliqué de vous répondre, dans le sens où, évidemment, par exemple, moi, mes journées, je rentre le soir, je m'occupe de mes gamins, je les couche, et puis je rallume l'ordinateur, par exemple. Voilà. Après, je suis pas non plus un stacanovisme. Voilà, quand le week-end, je suis en famille, point. Voilà. Je reprends le dimanche soir, histoire de traiter un peu les mails qui sont arrivés dans le week-end, mais basta. Pareil quand je suis en vacances. Alors évidemment, désormais, je crois que je n'ai pas lu un livre en dehors de chez moi depuis un petit bout de temps quand même. Hein. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais évidemment, quand je pars en vacances et que je prends des lectures, c'est essentiellement des manuscrits. Après, j'ai une passion coupable pour le comics, donc je me lave un peu le cerveau comme ça. Mais voilà, moi, ce n'est pas un souci à partir du moment où, d'abord, vous ne faites souffrir personne, et puis deux, vous savez vous arrêter, quoi. D'accord ? Donc, moi, je ne suis pas grognon, enfin, si, je suis un peu grognon, mais j'engueule jamais personne si j'ai un problème au boulot et que je rentre à la maison. Je reste quelqu'un de sociable. Et puis, si je suis en vacances, je suis en vacances. Basta. Mais ça ne m'empêche pas de prendre un coup de téléphone pro. C'est pas le problème. Et puis, ça ne m'empêche pas de me faire une session mail pendant tous les trois jours en disant, hop, pendant deux heures, je fais le job, quoi. Voilà. Bon, après, trois semaines de vacances, c'est un peu long pour moi, j'avoue. L'été, c'est bien, mais il faut que ça bouge, quoi. Mais il n'y a pas... ma passion est devenue ma vie pro. D'accord ? Donc, mais en même temps, j'ai conscience que nous pouvons nous diluer dans nos projets. En gros, j'ai compris il y a longtemps que je pourrais bosser 23 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est un tonneau des Danaïdes, j'aurais jamais fini, quoi. Donc, par contre, ça veut dire qu'il faut accepter la pression ou la culpabilité de dire j'ai pas répondu à tel mail ou tel mail, et puis tant pis. Passons des mails, c'est simple, une journée c'est 50 à 100 mails. 150 les bonjours. D'accord ? Donc, techniquement parlant, j'en reçois sans doute 200. Donc, il y a des mails qui passent à la trappe, quoi. Et j'en suis désolé, hein, mais si j'accepte pas ça, je me dilue. Et puis, non seulement je suis célibataire, mais je vais devenir fou, quoi. Donc, il faut connaître ses soupapes de sécurité, quoi. Et ça, c'est bien. C'est parce que quand on vieillit, quand on devient un peu vieux, pas trop encore, mais quand même, on apprend deux, trois trucs sur soi et on sait de temps en temps que ce soir, on est fatigué et puis il y a une console de jeu et puis c'est très bien. Et puis, on va poser le cerveau à côté et puis on le reprendra plus tard, quoi. Même si c'est bien le jeu vidéo. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Personne. Donc on a, avec les Indiens imaginaires, on porte deux collections chacun. C'est pareil pour Helios. C'est assez inédit parce que c'est difficile entre éditeurs de se mettre d'accord sur une collection en commun. Nous sommes chacun responsables de nos choix éditoriaux et nos choix et administrativement de nos livres. Donc ça veut dire que quand je choisis de prendre un Naos, c'est mon choix et je le porte financièrement parlant. Donc j'en assume les risques et j'en tire les bénéfices. En revanche, évidemment, nous avons des réunions régulières avec les Indés de l'Imaginaire de façon à pouvoir unifier un petit peu notre ligne éditoriale. Parce que chacun ne fait pas n'importe quoi là-dedans. Donc par exemple, Helios, c'est une collection qui a beaucoup évolué sur les cinq dernières années. Mais parce qu'il nous a fallu aussi du temps pour chacun tester des choses, faire du retour d'expérience aux autres, accepter aussi de temps en temps les critiques, pour pouvoir se mettre, dessiner une ligne globale qui soit encore plus pertinente. Quoi. Donc voilà. Ça, c'est un travail qui est assez inédit et qui est assez intéressant, parce que du coup, les maisons d'édition sont des maisons d'édition qui sont très concurrentielles les unes avec les autres. C'est-à-dire que si vous achetez le bouquin du voisin, vous n'aurez peut-être pas le budget pour acheter le mien. Quoi. Donc il faut accepter de mettre un petit peu son ego de chef d'entreprise de côté. Il faut accepter que le collectif ne soit pas toujours à votre bénéfice tout de suite, mais la somme de chacun fait un tout qui est plus grand que nous trois divisés, quoi. Et c'est pareil avec les états généraux de l'imaginaire. Ce sont vraiment des philosophies qu'on porte en disant si nous sommes capables de réfléchir collectivement à notre univers, ça devrait bénéficier à tous. Parce qu'on est d'accord que notre bien commun, c'est la science-fiction, la fantasy et le fantastique. On est né dedans, on adore sa littérature, on a envie qu'elles aillent plus loin, on a envie d'abattre les difficultés, et c'est pas moi qui le ferai tout seul. Donc voilà. Donc voilà, c'est bien. Et au début, on nous avait dit, oh là là, trois éditeurs derrière une même collection, les gens vont rien y comprendre. Je crois que les gens s'en foutent, en fait. Et les libraires, c'est pareil. Et Helios a une vie propre qui nous échappe aussi un petit peu. Par contre, il faut accepter qu'un Helios même si c'est ActuSF qui le finance, en fait, c'est Helios. C'est pas ActuSF.
Une autre question ?
Oui. Voilà. Parlez plus fort. Oui.
Ah ouais, c'est notre job. Travailler sur un manuscrit, c'est toujours un dialogue avec un auteur. Donc moi, je vais avoir un œil qui n'est pas l'œil de sa grand-mère, qui n'est pas l'œil de sa maman, qui n'est pas l'œil de sa femme ou de son mari. Je vais essayer d'avoir un regard objectif tout en ayant ma subjectivité, quoi. Donc en gros, je vais noter les passages qui me semblent pas cohérents vis-à-vis des personnages ou de l'histoire, les passages qui sont sans doute trop longs, les passages qui sont peut-être super émouvants, mais on répète l'information et c'est un peu chiant au final. Voilà, je vais devoir lui dire, cette phrase-là, elle est un peu bancale, donc faudrait la revoir, lui faire des propositions aussi. Hein. Et puis à partir de ce moment-là, on dialogue. Donc il y a des fois où les auteurs me disent, je sais que c'est un peu long, mais tu comprends, je voulais apporter telle idée. Et finalement, c'est sans doute la meilleure manière de faire. Et dans ce cas-là, il faut respecter aussi, c'est son texte, quoi. D'accord ? Et puis parfois, vous proposez une autre formulation de phrase, et puis il vous en propose une troisième, et puis c'est très bien, quoi. Donc c'est à la fois très long, mais très intéressant, parce que chaque auteur a son dialogue et son rapport à son manuscrit, à son texte. Et assez étonnamment, plus ils sont chevronnés, souvent, et moins ils sont chiants, en fait. Plus ils acceptent ils savent qu'il y a un regard extérieur et que c'est pour le bien du texte. Parce qu'en fait, je ne le fais pas, moi, pour être satisfait Jérôme Vincent, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à rendre le texte meilleur. Et parfois, ça nécessite une passe, deux passes, trois passes, avant qu'on soit d'accord et qu'on passe à la correction. À la correction orthotypo, hein. Vraiment, là, c'est Marie qui le fait. Et parfois, Marie, elle apporte d'autres questions en disant, il y a un personnage qui change de prénom et je comprends pas pourquoi, et on l'avait pas vu ni l'auteur ni moi, et c'est elle qui le voit, quoi. Donc c'est vraiment nécessaire, on peut pas s'en passer, quoi.
Alors c'est très intéressant la question et la réponse, parce que moi je voudrais prendre le point de vue de l'auteur.
Évidemment. Bon, Jean-François est auteur aussi.
Oui, et puis je suis aussi directeur de collection chez un éditeur suisse qui s'appelle Elis Hellas. Je dirige une collection de science-fiction qui est assez récente. Mais le travail avec l'auteur, effectivement, et c'est très bien ce que tu as dit, c'est que les auteurs, plus ils sont qualifiés, plus ils sont souples, je dirais, plus ils acceptent les remarques de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de pire pour un auteur, notamment pour un auteur débutant, que de dire « Ah, j'ai absolument raison, ce qu'on me demande, ça ne va pas », et puis de mettre les pieds contre le mur. Ça, c'est le moyen le plus sûr pour ne pas être publié. Donc il faut vraiment... c'est un dialogue qui prend du temps, ça c'est sûr, mais qui est indispensable.
Mais en même temps, j'ai conscience parfois qu'un jeune auteur, ou même les manuscrits qu'on reçoit, c'est terrible, quoi. Et les gens, ils ont bossé un an, deux ans, trois ans avec une idée, et puis leurs amis ont dit que c'était absolument génial, et puis moi, je trouve que c'est un peu pourri, quand même, quoi. Alors quand c'est par mail, c'est cool, je dis, ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous cherchons dans notre maison d'édition, merci d'aller voir ailleurs. Et puis parfois, ils viennent me voir en salon, hein, et puis il faut dire, je vais pas vous le prendre, quoi. Et c'est pareil sur les auteurs avec qui on travaille, hein. De temps en temps, on dit, ton manuscrit, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas, mais en même temps, je comprends que derrière, il y a un an, deux ans, trois ans de boulot, de passion, d'envie, d'investissement. Et moi, je suis là à dire, ouais, non. Ouais, peut-être si, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, après, ça se passe bien. Il faut juste être honnête en disant... Et puis parfois, on dit, je sais pas. Voilà. Il est bien, il y a des défauts, mais je vois pas comment moi je vais pouvoir le porter, quoi. Donc là, je connais qui est quasiment un copain, hein, il est chroniqueur chez ActuSF. J'aime bien ce qu'il fait, mais pour l'instant, je vois pas comment est-ce que nous, en tant qu'ActuSF, on va pouvoir le porter. Parce qu'il y a un truc qui, il y a un truc qui se crée par devers nous, c'est qu'en fait, ActuSF, c'est pas moi. C'est une espèce d'entité qui a une image qui est différente de celle que j'ai de ma boîte. D'accord ? Donc en tant que lecteur, vous avez forcément une image de ce qu'est ActuSF qui ne correspond pas tout à fait à la mienne. Et donc à partir de ce moment-là, ça génère des réactions et des interactions différentes.
Encore une question? Oui?
Ouais.
Alors, nous, sur les chiffres numériques, je vois Stéphane Viseur qui arrive, donc je me dépêche. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, on fait un petit peu d'inédit numérique, mais souvent, ce sont plutôt des rééditions ou des projets connexes. Par exemple, quand on sort Karim Béaouka, on va sortir deux mini-recueils qui correspondent à son univers, c'est plus du complément. C'est la même chose, il faut toujours un travail édito et un travail de correction. Donc, c'est toujours long pour des ventes qui ne sont pas toujours à l'avenant, mais... C'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que, en revanche, je prends rarement un manuscrit qui pourrait être un bouquin, mais qu'on va faire quand même en numérique. C'est quand même considérer des textes de seconde classe par rapport à ce qu'on fait, quoi. Je trouve que c'est pas très honnête vis-à-vis des auteurs. Soit on s'engage sur un texte, soit on le fait pas. Enfin, il y a un moment, faut être raisonnable. J'exclus de ce discours les rééditions ou les projets un peu particuliers. Voilà. Parce que, par exemple, l'essai d'Anthony Valla sur Isaac Asimov, il se trouve qu'il n'est pas assez gros pour qu'on en fasse un livre. En revanche, il peut être intéressant de le faire en numérique, comme ça il a une vie quand même. On a une interview croisée de Ray Bradbury et de Richard Matheson, qu'on a fait à nos frais, mais parce que ça fait genre 150 000 signes et que je n'ai pas de format qui corresponde à ça, et commercialement en librairie, on va se vautrer. En revanche, ça peut être intéressant pour nous. Donc le travail éditorial et la correction, c'est la même chose. Nous, on propose des bouquins numériques qui sont sans DRM, qui sont 30 à 50% du prix du papier, d'accord, qui sont des contrats à durée limitée, enfin comme pour l'édition. Et en revanche, le numérique, désormais, c'est un système qui marche beaucoup avec des promotions. Donc tous les mois, nous avons des promotions sur un certain nombre de livres numériques pour les faire remonter et puis pour essayer de créer des appels d'air avec un certain nombre de ventes, quoi. Sachant quand même que le numérique, il faut bien comprendre que ça fait moins de 10 ans que tout le monde s'est investi et qu'on est seulement en train de commencer à compiler les retours d'expérience en disant ok, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mon discours sur le numérique, il évolue d'année en année, si on va être honnête. Et même si on a mené encore une autre initiative qui s'appelle une librairie numérique, qui s'appelle Imaginaire, qui est une librairie numérique indépendante, qui vend des EPUB qui vend 250 000 livres différents. Donc on trouve le guide du routard ou le dernier Frédéric Becbédé, quoi. Mais en revanche, nous, on l'a thématisé Imaginaire. Et c'est aujourd'hui une librairie qui fonctionne et qui est rentable pour nous. Donc voilà, on a créé notre propre observatoire finalement de tout ça. Et puis on gagne des sous sur les livres de nos collègues et j'adore. Denis, une question ? Y a-t-il une autre question ?
Non, c'est à toi de dire ça.
C'est toi le modérateur.
Ouais. Ça dépend. Soit l'auteur est très en retard et dans ces cas-là, il y a 3 mois et les nuits sont comprises. Soit parfois, il y a des projets qui prennent 2 ans, 3 ans. Entre l'idée, la manière dont la soumission finale. Après, il y a un planning, donc il y a plus ou moins de boulot sur un texte. Donc effectivement, moi, il y a des projets qui ont pris parfois 3 ans, voilà, où ça fait longtemps qu'on en parle. En règle générale, comme vous avez 6 mois pour prévenir votre diffuseur-distributeur que le livre va arriver en librairie, les projets ils se font plutôt entre 9 mois et 1 an. D'accord ? Donc là, je travaille en éditorial sur les bouquins d'août et septembre, donc là, je suis à la bourre. En revanche, on commence déjà à penser à début 2019. Vous voyez, nous ne sommes qu'en mai. Donc, voilà. Mais il faut comprendre que l'édition, c'est un long processus. Donc, commercialement parlant, vous devez avoir les couvertures 6 mois avant, les argumentaires, avoir déjà signé les contrats, etc. Quoi. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a un auteur qui m'a dit que ce serait super qu'on publie un texte en mai 68, sur mai 68, en 2018. J'ai raté. Voilà, on est le 25 mai, là, je peux pas faire grand-chose. Quoi. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense.
Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je tiens à remercier Jérôme Vincent pour toutes ses explications sur sa maison d'édition. Et puis, à vous remercier, vous, public, pour avoir participé, écouté et posé des questions qui permettent d'approfondir un peu plus le métier d'éditeur. Merci beaucoup.
Merci à vous.